Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes.
Pour cette nouvelle émission Aura des pâquerettes, RVR Roann vous emmène en balade à Ambierle sur la côte rouennaise pour visiter l'expo du fil aux perles du musée Alice Taverne.
Lorsque j'appris à coudre, d'abord on m'a donné du fil et une aiguille. Maman m'a dit, ma fille, débrouille-toi avec ça. Tu devrais savoir déjà, il est temps que tu saches coudre. Il faut te décider.
Vous entendez? On se croirait presque dans un atelier de couture du siècle dernier. Nous sommes en réalité au musée Alice Taverne d'Ambierle. Ce musée, c'est le rêve d'une femme, Alice Taverne, qui a voulu reconstituer la vie dans nos campagnes telle qu'elle était au 19e siècle. Dans cette grande bâtisse, nichée au cœur du vignoble de la côte rouennaise, il y a un grenier. Et dans ce grenier, on retrouve une collection d'objets qui servaient autrefois aux travaux d'aiguilles. Et en ce moment, une exposition temporaire, du fil aux perles, leur est consacrée. Nous vous emmenons aujourd'hui pour une petite visite guidée avec le conservateur honoraire. Monsieur Robert Bouillet est le garant de la mémoire du musée.
Depuis plusieurs années, nous songions déjà à cette exposition pour présenter le travail féminin, exclusivement féminin, et donc manuel, évidemment. Alors là, nous avons à la fois de l'utilitaire, mais aussi, quelquefois, elle travaillait pour avoir quelques pièces de monnaie. Et donc c'était souvent des fonctions qui étaient très mal payées, que ce soit la broderie, la dentelle. Mais bon, ça leur permettait de le faire en même temps qu'elles gardaient les animaux dans les champs, etc. Donc ce sont tous ces aspects. Surtout, nous voulions montrer la richesse des techniques, parce que on se figure broderie, dentelle, oh ben c'est tout pareil. Non, pas du tout. Il y a des quantités de techniques différentes et des résultats qui sont souvent vraiment artistiques, même si ce n'est pas toujours apprécié à la valeur du temps qu'il faut y passer en général. Donc on présente aussi au départ le fil, parce que tout est dans le fil, on dirait le fil, ensuite l'aiguille, et donc on a tous les travaux de couture qui sont faits à la maison. Je ne parle pas de la couture, évidemment, industrielle, ou le prêt-à-porter, la couture qui est faite à la maison. Insistons par exemple sur une chose, c'est autrefois, on raccommodait, ce qui ne se fait plus pratiquement dans l'époque actuelle. Mais le raccommodage comptait beaucoup parce que toutes ces pièces-là étaient quand même très chères. Alors même si on tissait souvent au pays, si on cultivait soi-même le chanvre, néanmoins, on économisait toutes ces choses. Donc nous allons les réparer. On prenait quelquefois la robe d'une grand-mère, on l'a retaillée pour une fillette, vous voyez. Donc, il y a tout cela qui est exprimé ici à travers toute cette exposition. Alors, donc, on présente ici également le chanvre, le lin. Chez nous, le lin très peu cultivé, hein, c'était surtout du chanvre, beaucoup, beaucoup le chanvre. Dans toute cette région, rive droite, rive gauche du Rouennais, dans tout le massif central d'ailleurs. Et puis après, est venu le coton à partir du XVIIe et surtout XVIIIe siècle. Donc ça a été beaucoup tissé dans la région rouennaise. Et puis la soie qui a toujours été un produit plutôt luxueux, bien sûr. qui travaille là-bas, qui est photographié, uh-huh. c'était en 1935.
D'accord.
Vous voyez, quand on filait encore à la quenouille, comme cela, voilà, chez soi, elle a le petit fuseau que vous voyez uh-huh. pendu dessous, qu'on trouve en vitrine après, là, vous voyez. Donc ce fuseau, c'est ce qui est, elle le lance, il tourne, ça donne une certaine tension, donc elle va filer sa laine, elle tient sous le bras la quenouille, là c'est une quenouille ornée, mais elle c'est un simple bâton, mm-hmm. et puis ensuite elle enroule sa laine sur le fuseau, après il faudra qu'elle le mette sur une bobine, c'était très long. Alors le rouet, qui est quand même connu depuis plusieurs siècles,
oui.
a permis d'aller beaucoup plus vite, évidemment, pour faire tout ce travail, mais c'était toujours un travail à la main, et surtout un doigté tout à fait spécial. Quand on le voit faire, on dit « Oh, ça n'a pas l'air difficile ». Non, mais non, oui, mais c'est en réalité extraordinaire. Là, c'est un bobinoir, donc pour la laine également. Et l'autre photographie que vous avez là-bas montre des femmes, c'est pas de chez nous, mais elles le faisaient exactement comme ça. Vous avez les appareils devant, ce qu'on appelle le braquoir ou la broie, tout simplement. Parce que le chanvre est une grande plante qu'il faut d'abord mettre dans des fossés pour les faire, pour le faire tremper. On appelle ça le ruissage. Et puis ensuite, il faut casser les fibres. Et donc, on le fait avec cet appareil. Et puis après, il faut encore peigner ce chanvre. C'était toutes des opérations très longues. Le peigneur, c'était souvent un homme. Mais là, on voit des femmes en action essentiellement. Hein. On n'a pas seulement la soie, on n'a pas seulement le coton, mais on a le raffia. Le raffia a pu servir dans certains cas, et on l'avait notamment ressorti pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on ne pouvait plus fournir suffisamment en fil, en laine, et on avait repris d'autres matières. Le raffia nous vient d'ailleurs plutôt des ce que l'on appelait à l'époque des colonies, mais... voilà, c'est extrêmement varié. Hein. Vous avez toutes sortes de procédés. Puis voilà, la chemise en chanvre. Vous voyez, ça peut vous paraître rude. C'est un gros avantage de chanvre, c'est que c'est chaud l'hiver, frais l'été. Alors, on a l'impression que ça gratte pas tellement d'ailleurs, finalement. On avait d'ailleurs des draps en chanvre encore récemment, moi j'en ai eu. Bon, c'est agréable en fait, parce que ça ne vous donne pas ces impressions qu'on a mis à une certaine période, où on a fait des draps en produits artificiels. Si on glisse dessus, on est... Non. Là, ça absorbe la... C'était la chemise, c'était presque le même style homme-femme. Et c'était autrefois, je parle surtout du 19e alors, mais le vêtement universel, jour-nuit, c'est ce qui leur servait de chemise de nuit également, donc elle ne quittait jamais. Et dans les champs, vous aviez des hommes qui étaient comme cela également... apparemment en robe. Oui. On a des vignettes du XVIIe siècle qui nous le montrent. Jusqu'à 5 ans, 6 ans, les garçons étaient en robe. Oui. Ce qui permettait pour les soins, c'était plus facile. Et puis, alors c'était, pour les garçons, ils étaient très fiers lorsqu'ils commençaient à prendre une culotte courte à l'époque, évidemment. Et puis, il y a le changement quand on met le pantalon. Alors, à 14 ans, c'était les étapes. Les étapes qui marquaient la vie beaucoup autrefois. Maintenant, c'est vraiment très différent. On n'est pas dans la même civilisation. On a fait aussi des tableaux, nous n'avons pas le temps de lire, là, mais qui montrent l'importance, par exemple, de l'aiguille. L'aiguille à coudre, qui est une chose absolument magnifique. Depuis qu'on fait cela en acier, c'est-à-dire depuis la période industrielle, où ce sont les Anglais d'ailleurs qui étaient les maîtres en la matière, mais nous avons des usines en Normandie, qui, en France, qui sont également très anciennes, du 19e siècle, et qui ont continué, qui se sont améliorées. Et on ne prête pas assez attention à ces choses-là. Une aiguille, c'est une petite merveille, parce qu'il faut que votre fil va passer dans le chat, il ne va pas se casser. Donc, autrefois, ça demandait plus d'une centaine d'opérations manuelles pour arriver à faire une aiguille. C'était vraiment assez extraordinaire.
Je me suis posé la question, les aiguilles, avant qu'elles soient en acier, elles étaient en quoi ?
Alors, on a des aiguilles déjà dans la préhistoire. Les Magdaléniens, et même un peu avant eux, peut-être Néandertal d'ailleurs, je ne sais pas exactement, il faudrait demander aux préhistoriens, mais en tout cas en préhistoire, nous avons des aiguilles qui sont en os. Donc pendant longtemps, on va se servir de ces aiguilles-là. Et il faut arriver pour avoir vraiment l'acier. Bon, c'est le 18e siècle, là, donc... L'aiguille est une chose, donc c'est surtout pour le travail de couture, donc pour tout ce qui est vêtements assemblés. Mais on a évidemment le crochet. On faisait beaucoup de travail au crochet, soit pour obtenir une pèlerine, soit pour faire de la dentelle au crochet, donc sur une certaine longueur. Les aiguilles à tricoter, parce que comme nous avons de la laine... Donc, il y a la fileuse, on va filer la laine et on va la tricoter. Pendant longtemps aussi, le tricot, il en est peut-être peu resté d'ancien, mais ça a été très important. Alors, dans cette exposition, nous avons des éléments, je vais vous les montrer, qui sont du 18e siècle. Mais nous allons jusqu'au 20e siècle quand même, 21e, pardon, parce que il faut montrer cette machine à tricoter qui est tout à fait actuelle. Et là, c'est pour montrer la continuité de toutes ces techniques. De même qu'aujourd'hui, on fait encore de la dentelle au fuseau, mais c'est davantage pour des loisirs, c'est davantage pour obtenir un travail artistique, en quelque sorte. Hein.
On pourrait se dire que ce qui a vraiment révolutionné tous ces travaux féminins, c'est l'arrivée avec la révolution industrielle de la machine à coudre, qui d'ailleurs est née pas loin de la RVR, en pleu-pluie,
oui,
avec Barthélemy Timonier.
Bien sûr, bien oui, absolument, absolument. Mais il faut penser que certains de ces arts se poursuivent aujourd'hui, hein, quand même. On fait encore de la dentelle de cette manière. Alors la machine a rattrapé, évidemment, a permis d'avoir de la valencienne sur des quantités de mètres. Mais quand on regarde bien ces produits, ce qui est fait à la main a quand même une autre dimension, quoi. Ça se reconnaît. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus soigné. Dans cette vitrine, oui, je dis, qui est consacrée à la couture et spécialement aux machines à coudre, mais les machines à coudre donc de la maison, familiale, portative souvent, vous voyez. Bon, il y en a d'autres qui sont présentées ailleurs, et puis il y a Amplepuis, bien sûr. Je vous disais, oui, dans quel esprit, c'est-à-dire que nous avons joint, enfin notre animatrice a bien eu cette idée, de joindre les jouets qui correspondent. En général, c'est toujours pour des filles, à l'époque, bien sûr. Il y avait une séparation. Et puis également, les journaux, comme fillettes, ceux-là sont du début du XXe siècle, où ces journaux, alors qu'ils voyaient le magicien et la bergère, etc. Et ils donnent également la mode de fillettes, ils donnent des patrons. Donc, on a une sorte de chaîne, alors on me dirait que c'est vraiment la mise en condition, hein, mais d'un autre côté, c'était naturel à cette époque, c'était la vie telle qu'on la concevait, donc ça n'avait absolument rien de choquant à l'époque. Et là, vous avez alors des patrons authentiques de couturières qui ont été mis, ou des choses, des, pour tailler les vêtements, puisqu'on dit ici la tailleuse, on ne dit pas la couturière. Autrefois, on disait la tailleuse. C'est le féminin de tailleur qui aujourd'hui est moins compris, effectivement.
Dans les grandes maisons de couture, il y en a qui sont trottins ou bien vendeuses, et par nature, il y en a qui sont mannequins. Il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surjets. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire les robes en biais.
Et là, c'est dans l'autre vitrine, c'est tout le petit matériel de couture également, avec là encore des travaux de jeunes filles, vous voyez, qui prenaient des cours. Bon, quand elles avaient 12, 13, 14 ans, vous voyez, avec des exemples de raccommodage, des exemples de petits vêtements.
Vêtements de poupée, peut-être.
Vêtements de poupée, oui, exactement. Et puis là, sur ce carnet en rouge, vous voyez, vous avez différents points qui sont faits, même à la machine, mais ils sont faits pour montrer les différentes catégories. Mm-hmm. Et vous avez, bon, beaucoup d'objets, bon, classiques de la couture. Mm-hmm. Et notamment ces porte-aiguilles également, qui sont souvent confectionnées d'une manière un peu originale, ou des plottes d'épingles. On en a beaucoup chez la couturière qui est présentée alors au premier étage du musée. Mm-hmm. Vous en avez de nombreux exemples également. Les patrons, bon, des choses très connues, les boutons. On gardait les vêtements usagés, on coupait les boutons et on conservait les boutons. Donc, oui. Les boutons, rien que pour les boutons, on pourrait en discuter pendant des heures. La boîte à boutons, c'est en général le premier objet d'amusement que l'on a quand on est petit. Je vous montre au passage une poutre qui a été empaquetée en quelque sorte dans une couverture. Notre animatrice qui a mis en place cette exposition voulait, et j'étais tout à fait d'accord, montrer que aujourd'hui c'est une forme d'art aussi très récente où on empaquette un réverbère, donc une barrière. Donc c'est ce qu'elle a voulu évoquer. Et là, on retrouve par exemple le pull moche, qui est tout à fait donc du 20e et même du 21e siècle. Et puis des objets également, là, en forme de saucisson, de saucisse, qui ont été faits par les tricoteuses qui ont travaillé pour nous. Pour l'année dernière, il y avait une exposition sur le cochon, et donc elles nous avaient préparé ces pièces-là. Et elles ont fait, avec de la laine, des quantités de choses extrêmement différentes. Oui. Vous posez peut-être la question, je peux vous laisser une petite chose. Ce sont des prothèses mammaires.
Oh, d'accord.
Ça nous vient d'Amérique, c'est tout à fait récent d'ailleurs. En Amérique, ils mettaient ça en plastique pour les femmes qui avaient été opérées du sein. Oui. Et elles avaient des démangeaisons, ça n'allait pas. Et puis il y en a une qui a eu l'idée, mais pourquoi on ne prendrait pas de la laine et on va la bourrer et on va prendre ça. Et c'est venu maintenant sur le continent et donc voilà, on fait ça en laine, en coton. Oui. Ce sont nos tricoteuses également qui ont fait ça. Mais c'est pour ça, quand elle m'a proposé ça, l'animatrice, je lui ai dit, si, il faut le mettre, parce qu'il faut bien montrer qu'il y a une évolution tout le temps, une réadaptation, et c'est très important, ça, dans l'histoire. Transporter, si vous voulez bien, devant la vitrine, des perles. Alors, on utilise beaucoup les perles aussi. Bon, on va prendre de gauche à droite. Vous avez les perles funéraires, donc on faisait des couronnes en perles. Et c'était des personnes, nous avons plusieurs témoignages, nous avons fait des enquêtes à ce sujet, des personnes, des femmes, qui, par exemple, l'après-midi, ayant réglé les problèmes du ménage, elles pouvaient se permettre pendant 2 heures d'aller. Elles se réunissaient souvent à plusieurs et elles disaient « Ici, nous allons aux perles ». Et en fait, donc, elles allaient monter toutes ces perles pour faire ces couronnes. Alors, après les années 50, ça a commencé de passer de mode. Et actuellement, on en voit encore dans les cimetières, mais enfin de moins en moins, parce que le fil rouille et donc les perles tombent et tout s'en va. C'est d'un fil, normalement, on devrait mettre un fil d'archal, c'est-à-dire un fil qui résiste, mais c'est souvent un fil d'acier, donc il s'oxyde et oui, voilà, il tombe. Donc, utilisation des perles bien précises. Là, nous avons eu aussi la chance de trouver les modèles chez les, non pas les fabricants, mais ceux qui prenaient le travail des femmes ensuite et qui le revendaient dans les établissements, les pompes funèbres par exemple. Quoi. Mais la perle servait aussi à des choses beaucoup plus intéressantes. Il y avait toutes les bourses perlées. Vous avez des cols qui sont entièrement faits avec des petites perles, vous voyez. C'est extraordinaire comme travail, hein. Et puis on a aussi dans ce travail féminin, moins chez nous, mais ça existe, on prenait de la cire pour faire une imitation des fleurs d'oranger. Et c'était le symbole du mariage autrefois. Donc toutes les mariées avaient, vous voyez là, une coiffe de mariée qui a ce symbole donc, qui est porté. Et vous avez aussi des fleurs artificielles qui étaient faites toujours pour la mariée, donc en blanc. Et ça, c'était des travaux qui se faisaient comme ça par des femmes, comme elles faisaient d'autres de la broderie, de la dentelle. Un petit clin d'œil quand même sur les chapelets. Donc c'est une utilisation des perles un peu particulière. Les femmes faisaient cela beaucoup dans la région d'Ambert, hein, surtout. Mais nous avons deux communes de la Loire qui permettaient à certaines femmes de faire des chapelets qui étaient ensuite récupérés par les marchands d'Ambert. Et quelquefois, vous avez sur la photo, ce sont de très jeunes filles qui vont... Là, il y en a une qui est assise, mais souvent, nous avons un texte d'Henri Pourrat qui le montre. En allant au champ, en montant leurs vaches dans les prés, à l'alpage, eh bien, elles avaient un tablier, elles avaient ce qu'il fallait, donc le fil d'archal, une petite pince que vous voyez ici à droite dans la vitrine, et eh bien, elles faisaient le chapelet tout en marchant derrière leurs animaux. Wow. Ça, on a un témoignage, mais on en a d'autres. Hein, donc. Ici, vous avez un travail qui est peut-être un travail de religieuse. Elles ont fait en soie et sur carton un autel avec des niches, tout cela. Tout est orné avec des perles très fines, vous voyez.
Je me posais une question sur les perles, enfin, comment elles étaient fabriquées à l'origine.
Alors à l'origine, il y avait là aussi des femmes, il y en avait en Velay notamment, qui fabriquaient ces perles. Donc c'est avec du verre, c'est tout... C'est un travail minutieux, ingrat et encore une fois peu rémunéré.
Mais les perles ne servaient pas seulement à la création d'objets et d'accessoires. Celles-ci pouvaient aussi venir agrémenter les toilettes des femmes. Le musée présente ainsi une robe de soirée des années 1920. Les perles sont montées sur une toile fine pour créer des motifs floraux et géométriques.
Alors avec ce que l'on appelle du jet. Le jet, c'est un genre de lignite dont on servait pour faire des objets noirs, donc comme vous le voyez, brillants. Mais ça coûtait très cher, donc on l'a imité très rapidement en verre noir. Et ça, ça a été une très grande mode, notamment vers la fin du 19e siècle. On a beaucoup utilisé, vous avez ici un gilet vous voyez, qui était fait avec des perles de jais. Mais vous vous rendez compte du nombre qu'il faut coudre, ça demande beaucoup d'heures là.
Fut un temps, la couture était une matière obligatoire pour les filles à l'école. Elles y apprenaient par exemple le point de croix.
On faisait beaucoup alors également des hommages comme cela, là au meilleur des pères, c'est quelquefois aux parents ou à la mère, avec un texte et tout cela donc au point de croix, quelquefois avec des perles, mais là c'est simplement au point de croix, c'est également extrêmement précieux. Celui-ci est de 1845. Et là, nous en avons toute une série, vous voyez, beaucoup plus variée, beaucoup plus récente aussi. Alors, c'était en général un alphabet. C'était ce qui allait ensuite leur servir pour marquer le linge, les torchons. Et donc, elles sont souvent très, très jeunes. Hein. Vous voyez, Francine au couturier, âgée de 7 ans, 1903. Bon, il y en a de plus anciens, vous en avez en haut également, hommage à mon père, vous voyez. Et bien, en général, elle conservait beaucoup ces objets, parce que si elle l'avait fait fillette, bon, c'était un souvenir. J'ai ma belle-sœur, moi qui ai le sien encore, qui est exposée quand on sur une table. Et donc, bien dans les successions, quelquefois nous l'ont donné, de leur vivant, oui. Et ça, c'est évidemment une collection très émouvante, quoi. Alors là, ici, nous avons donc la tapisserie, qui est un autre système pour réaliser des figures très compliquées. Bon, on fait ça depuis fort longtemps, bien sûr, et certaines sont très célèbres, hein, bien sûr, comme celle d'Aubusson. Et là, vous en avez des travaux alors, qui sont faits à la maison pour des coussins, pour des revêtements de fauteuils. Et à défaut de mettre le métier qui est présenté au premier étage, on a le métier d'enfant, vous voyez, pour faire, qui permet de tendre la toile et de faire passer donc les petits morceaux de laine pour faire cette tapisserie. Et ici, un tout petit tableau qui est également dû probablement à des religieuses, et ce serait même celle de la Bénisson Dieu. Et ça nous représente le sauvetage d'Andromède par ici... celui qui est au-dessus du monstre, là, vous voyez, c'est une scène de la mythologie. C'est Persée qui vient délivrer Andromède, attaché à son rocher, et qui devait être dévoré par le monstre marin. Mais quand on regarde de très près, y compris avec une loupe, c'est un travail merveilleux. Et, alors, il n'est pas très éclairé, là encore, volontairement, parce qu'il faut absolument conserver cela pour les générations futures. Leur montrer la qualité de ces travaux. Hein. Chez nous, on connaît l'origine de toutes ces choses. Ce sont des personnes, ce n'est pas de la brocante, quoi. On sait souvent ce qu'elles ont fait, leurs parents, tout. C'est important, ça enracine en quelque sorte. Nous pouvons aller vers au-devant cette... pièce ici, là.
Ouais. Oh, waouh.
Nous avons refait la chambre de la brodeuse ici, parce que suivant les pièces qui sont faites au premier étage du musée, pour donner une ambiance différente et voir surtout la disposition des objets. L'armoire est ouverte pour montrer combien autrefois toute cette importance du linge bien aligné dans les armoires, jusqu'à la génération de nos parents et grands-parents à plus forte raison. Donc, puis là, vous avez différents modèles, effectivement, qui sont exposés et qui ont trait à la broderie. On en voit un peu partout là, dans cette pièce.
Alors, on observe que toutes les pièces exposées dans cette chambre sont blanches. Est-ce que c'est parce qu'on ne teignait pas du tout le linge à l'époque ?
effectivement, le linge de maison, tout était blanc autrefois. La couleur n'intervient que guère à partir des années 50, un petit peu avant, mais guère. On aura déjà, par exemple, des sous-vêtements, combinaisons féminines, par exemple, dans les années 30, qui seront déjà du rose ou de bleu pâle. Mais les draps seront toujours blancs, les torchons seront toujours blancs. Ça, c'est... Et donc, on fait de la broderie blanc sur blanc. Les initiales, vous allez les voir dans cette vitrine. Vous voyez, les initiales. Toujours très, très artistique. Alors, il y a des draps entiers comme ça. On aurait pu doubler l'exposition. À 95%, ce sont des pièces qui viennent du musée, de ses réserves. C'est pour ça que nous voulions les montrer. Pour une période relativement courte, parce que toutes ces choses sont très fragiles, notamment à la lumière. Et donc, oui, vous avez raison, c'était du blanc principalement. Hein.
Nous nous dirigeons maintenant vers une autre vitrine consacrée à la broderie.
Donc, il y a différents instruments. Il y a aussi des procédés pour la broderie. On peut faire de la broderie soit avec l'aiguille, ce qui donne des choses très, très fines. Nous en verrons des exemples. Et puis, autrement, on peut utiliser aussi des petites navettes. C'est ce qu'on appelle frivolité. Là, vous avez un exemple dans cette vitrine, vous voyez, du travail au tambour. Travail au tambour, ça permettait de tendre. Et puis, vous voyez, comme c'est une statuette qui a été faite par un forésien, ça. Et elle est debout. Elle tient le tambour. C'est ce qui se passait autrefois. Les femmes pouvaient travailler en marchant, par exemple, derrière un troupeau. On va retrouver ça pour d'autres choses, d'ailleurs. L'intérêt de cet objet, quand il nous a été remis, c'est que la personne soit est tombée malade, soit qu'elle ait disparu. Et nous avons à la fois le travail en cours de réalisation et également les bobines qui étaient avec. Vous voyez, c'était merveilleux de tout avoir parce que ça me permet de montrer sur le vif comme si c'était un enregistrement, en somme. Et c'est la même chose, vous voyez, ici. Où nous avons à la fois le travail fini, vous voyez, c'est du travail très très fin qui est fait principalement à l'aiguille. Et là, il est fait sur papier, là c'est terminé, là il est encore sur le papier. Et là, vous avez la fourniture. Alors ça, c'est merveilleux de tout avoir parce que c'est exceptionnel. D'habitude d'ailleurs, on montre toujours les choses terminées, mais non, c'est intéressant aussi de voir le travail en cours. Et ici, vous avez les pièces les plus anciennes. Ce sont des broderies au fil lancé à l'aiguille du XVIIIe siècle. C'est le modèle de la poche que vous voyez là dans le gilet d'homme. À cette époque, Louis XVI, les hommes, vous voyez, faisaient... Enfin, les hommes, les riches, bien entendu, hein, parce que ça devait coûter un prix fou. Si vous regardez de près, c'est un détail, c'est extraordinaire, parce que arriver à faire ça avec une aiguille et des fils de couleur, ou des clinquants, argent et or.
On dirait presque que c'est fait à la machine, tellement les broderies sont régulières, les fils utilisés sont fins.
Ouais, c'est vraiment très impressionnant.
Dans la vitrine d'à côté.
On présente la broderie d'or, c'est ce qu'on appelait les grenadières du canton de Noirétable, qui faisaient toutes les toutes les lettres que l'on mettait, par exemple, sur les képis, les très beaux habits des académiciens. Là, vous en avez un en vitrine, donc, qui est d'ambassadeur. Et de la même façon, elle faisait également ses bannières, vous voyez, dont les titres, là, c'est la Société des ouvriers réunis de Fourneau, 1887. Mais sur ce velours qui est bordeaux très sombre, il y a des lettres en or qui donnent ce texte avec une certaine ornementation, des rubans, etc. Et ça, ce sont des lettres avec un fil d'or, justement. On utilise ce qu'on appelle la cantille. C'est un fil d'or en solénoïde, c'est le terme exact qu'il faudrait donner. Et on passe l'aiguille à travers pour coudre. Ça servait notamment à des ornements liturgiques. Et que c'est vrai. Alors, ils sont comme neufs, ceux-là. Ils ont été très bien conservés. C'est magnifique, quoi. Mais c'est vraiment de l'or véritable.
Je couds à certains mariages des dessus clairs. Je couds à d'autres mariages des dessous chers. Je couds de chagrin pour doublure au bonheur seul. Je couds au berceau pour doublure un grand linceul.
Et là, vous avez donc cette tenue d'académicien dont je vous parlais. Voilà. Dans l'autre vitrine, c'est également des travaux liturgiques, puisque là, vous avez des chasubles, le manipule, le voile de calice, etc., assorti. Là, donc, avec le thème de la Vierge, c'est une très, très belle pièce, et là encore, qui a très peu servi, donc qui est dans un état... Mais c'est pour cela qu'on ne peut pas exposer cela longtemps également.
Monsieur Bouillet nous montre d'autres ouvrages à vocation religieuse.
Alors vous avez beaucoup d'encadrements là, au point de croix qui représentent des saints. Vous en avez d'autres au-dessus de la vitrine, derrière. Et là c'est pareil, travail de patience qui était fait par des femmes toujours, bien sûr. On a aussi des petits reliquaires avec des décorations de roses artificielles. Beaucoup également de ces travaux étaient faits par des religieuses, hein, bien sûr.
Enfin, un dernier type de travaux féminins que nous n'avons pas abordé. Un petit indice, il est utilisé pour orner la lingerie, les robes et les voiles de mariée. Il s'agit de la dentelle.
Alors, ici nous avons la dentelle bien connue, la dentelle du puits. Vous avez ici à la fois des modèles, c'est-à-dire que les dentelières avaient ces catalogues qui leur permettaient de travailler. C'est le carton qui est fait sur ce qu'on appelle sur un carreau, vous voyez. On met un carton modèle et puis en piquant les aiguilles, voilà. Alors on agite ensuite les fuseaux pour obtenir par entrecroisement. C'est un des systèmes assez fréquents. Également, nous sommes passés à côté du travail à la planche. Alors là, c'est une planche avec des clous. Et en croisant les fils, en les nouant, et bien après, on enlève des crochets et on a une pèlerine en forme, où on peut faire autre chose, évidemment. Tout ça, c'est très complexe. C'est tout cela qu'on voulait, cette variété qu'on voulait montrer.
Lorsque j'appris à coudre, d'abord on m'a donné du fil et une aiguille. Maman m'a dit, ma fille, débrouille-toi avec ça. Tu devrais savoir déjà, il est temps que tu saches coudre. Il faut te décider.
Vous entendez? On se croirait presque dans un atelier de couture du siècle dernier. Nous sommes en réalité au musée Alice Taverne d'Ambierle. Ce musée, c'est le rêve d'une femme, Alice Taverne, qui a voulu reconstituer la vie dans nos campagnes telle qu'elle était au XIXe siècle. Dans cette grande bâtisse, nichée au cœur du vignoble de la côte rouennaise, il y a un grenier. Et dans ce grenier, on retrouve une collection d'objets qui servaient autrefois aux travaux d'aiguilles. Et en ce moment, une exposition temporaire du fil aux perles leur est consacrée. Nous sommes venus à la rencontre des tricoteuses d'Ambial, Annie et Pascal, qui animent des ateliers d'initiation à ces techniques.
On part sur deux mailles en droit. Ok, c'est parfait. Donc, je m'appelle Annie, effectivement. Je suis sur la côte rouennaise depuis 5 ans, en particulier à Ambière. Et je trouve très intéressant de s'impliquer dans la vie associative du village. Donc, je fais des animations au musée. Et ça a commencé il y a 2 ans et demi, avec une exposition sur le cochon, qui, je crois, a eu beaucoup de succès. Comme les organisateurs ne pouvaient pas mettre de vrais saucissons, de vrais jambons et tout ça, Aurélie a fait appel à des tricoteuses et des crocheteuses pour faire des faux saucissons. Et donc, on a fait plein de cochonailles, qu'on a appelées des cochomailles, d'ailleurs, et qui ont eu apparemment beaucoup de succès, parce que les gens ont trouvé ça très réaliste et très sympa.
On a tricoté de boudin. On a une des dames là qui a dû faire, je sais plus, au moins 15 mètres de boudin. On a fait, Annie a tricoté et crocheté de superbes légumes pour une potée. Elle avait des carottes et des choux-fleurs qui étaient de toute beauté.
Et donc, sur la douzaine de personnes, on est 4 à avoir vraiment très bien sympathisé. Donc, on avait un peu chacune notre spécialité, tricot, crochet, puis il y en a une qui fait de la broderie, une autre qui fait du macramé, et donc on se retrouve régulièrement. Alors, à 2, à 3, à 4.
Et on apprend les unes aux autres. Moi, j'apprends le tricot 3D à certaines, d'autres apprennent le crochet. Voilà, c'est un échange intergénérationnel parce qu'on est toutes d'horizons et d'âges différents. Voilà, ça qui est important, partager.
Proprement dit, cette année encore, on nous a demandé de faire des animations pour montrer, faire découvrir et donner des bases ou perfectionner des gens pour le crochet, le tricot, le macramé, la broderie pointe-croix et le tricotin aussi. Et donc, c'est vrai que c'est souvent des enfants qui viennent et qui découvrent le travail manuel. Et en général, on arrive à trouver des petits objets avec lesquels ils peuvent repartir sur une heure. Donc, ils apprennent les bases, ils repartent avec leurs petites réalisations et souvent, ils sont très contents. Voilà, nous avons aussi quelques adultes qui, ayant des bases, voudraient se perfectionner ou ont, par exemple, tricoté il y a très, très longtemps, quand ils étaient jeunes, et donc qui reviennent pour remettre les choses un petit peu en place. Donc là, aujourd'hui, c'était la dernière fois et on verra l'année prochaine si on renouvelle. Pourquoi pas, vu le succès que ça a rencontré.
J'apprends à quelqu'un à tricoter avec un enfant ou un adulte. L'important, c'est de transmettre. C'est ce moment qu'on partage ensemble où l'une apprend à l'autre. Et c'est un enrichissement pour toutes les deux, en fait. Et donc, c'est mon plaisir. Tricoter toute seule, je trouve ça c'est très sympa. Mais apprendre des petits trucs, des petites astuces, partager, échanger avec d'autres, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et c'est la raison pour laquelle on est là, en fait. Moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de professeurs et d'élèves. On est tous là, oui, on est ici pour échanger, passer un bon moment, que la personne après se dise, ben, j'ai passé un bon moment, j'ai appris quelque chose, mais c'était sympa et sans prétention. On n'est pas, moi j'apprends tous les jours, c'est ça qui est intéressant. On apprend à tout âge et c'est un échange au quotidien avec des gens d'horizons complètement différents, des techniques complètement différentes, c'est ça qui est important. Mais ce que je trouve génial, c'est d'échanger, c'est de se rendre compte que finalement, ben, on arrive à faire... Parce que vous avez des gens qui vous disent, mais non, mais moi, j'arriverai jamais à faire ça. Mais si, on prendra le temps, quel que soit l'âge, quels que soient les problèmes de main, on trouve des astuces et on arrive à faire des tas de choses. Et on est trop fiers quand finalement on y est arrivé. Et je trouve ça génial, moi, quand je reçois une photo, finalement, du petit lapin qui a été réalisé. Moi, je trouve ça fabuleux, quoi.
Là, c'est à l'envers. Très bien. On change. Le tricot, c'est toujours une maille en droit, une maille envers. On est toujours en train de compter.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui fait votre passion, un peu, vous nous avez dit, pour le crochet, et qu'est-ce que vous faites en crochet pour votre plaisir ?
Ah oui, oui, oui. Alors en fait, moi je suis plus crocheteuse que tricoteuse, et donc quand j'étais très jeune, c'était la mode des napperons, des nappes en crochet, donc j'en ai fait beaucoup, pour moi, pour ma famille, etc. Après c'est passé de mode, et puis de toute façon la vie a fait que j'ai eu des enfants, j'avais moins de temps libre, et maintenant il y a quelque chose qui est revenu très à la mode, c'est de faire des petits personnages en crochet. Ça vient du Japon et ça s'appelle des amigurumi. Et entre autres, il y a tous les Pokémon qu'on peut faire en crochet. Et comme j'ai un petit-fils qui est passionné de Pokémon, il a découvert ça. Il m'a dit « Mamie, tu peux me faire ?» Donc je me suis lancée là-dedans. Et maintenant, je ne les ai pas tous faits parce que des Pokémon, il y en a des quantités, mais j'ai déjà fait une bonne vingtaine de modèles. Et du coup, sa sœur m'a dit « Mais Mercredi Adams, tu peux pas me la faire en crochet ?» Et donc, on a trouvé un très beau, joli modèle. Bon, j'avoue que j'étais au début un peu sceptique, mais en crochet, souvent, ce qu'on appelle les tutos sont très bien faits. Ils sont faits par des gens qui maîtrisent vraiment et ils savent donner beaucoup d'explications très simples. Alors pour moi, il y a deux choses, ça m'occupe. Maintenant que je suis en retraite, par exemple en hiver, j'aime beaucoup le jardinage, mais donc en hiver on jardine pas beaucoup, ça m'occupe et j'aime bien créer quelque chose. Par exemple faire des jeux genre mots croisés, ça va bien un temps, mais au bout c'est un peu trop répétitif. Là, comme il y a beaucoup beaucoup de modèles, à chaque fois on peut progresser puis faire des modèles de plus en plus compliqués. Et comme vous le disiez si bien, le plaisir d'offrir quelque chose à quelqu'un qui dit « Ah oui, c'est vrai, un petit lapin, un petit écureuil. » Par exemple, j'ai une sœur en Nouvelle-Zélande et donc j'ai fait des photos pour montrer ce que j'aimais bien. Elle dit « Oh là là, mais la lapine, elle est trop belle, surtout avec sa robe rouge. » Donc j'en ai fait une et je lui ai envoyé pour son anniversaire. Elle était vraiment contente. Et c'est vrai que ça participe du plaisir de faire quelque chose, de toute façon.
Ça fait partie aussi des plaisirs, c'est-à-dire offrir un personnage tricoté, c'est rigolo, parce qu'on fait beaucoup de jouets, enfin moi je fais beaucoup de jouets, et je fais des chiens, enfin on fait un peu de tout. Il y a ce que je vous disais tout à l'heure, moi je travaille surtout sur des patrons, sur des modèles anglais, et il y a des créatrices qui sont absolument exceptionnelles et un rendu tout à fait exceptionnel pour du tricot. Les gens connaissent beaucoup les amigurumi en crochet, on connaît très très peu le tricot en 3D. Et c'est effectivement somptueux, c'est vraiment très très beau. Puis ce qui est bien dans le tricot, enfin tout ce qui est matière de laine, mais la couturière va vous dire la même chose avec son tissu, c'est il y a aussi une part de création dans la mesure où on associe un fil, une couleur, on crée quand même quelque chose. Ben c'est parfait. En plus, vous ne serrez pas beaucoup, donc c'est parfait.
Comment vous avez appris le tricot, vous ? Comment c'est venu ?
En fait, ben, comme beaucoup de personnes de ma génération, on a appris à l'école. En fait, il y avait couture, tricot et tout. Et comme beaucoup de personnes de ma génération, mais ça reprend avec les grands-mères. Bon, ma mère moins parce qu'on était nombreux et puis elle était moins manuelle, le tricot et tout ça, mais avec les grands-mères, on apprenait toujours un petit peu soit le tricot, soit la couture, soit le crochet.
Il paraît, mais j'ai quand même des petits souvenirs, des petits flashs. On m'a mis des aiguilles dans les mains, j'avais 5 ans, et il paraît que j'ai accroché tout de suite, ça m'a plu. Donc c'était ma grand-mère qui m'a mis les aiguilles dans les mains, parce qu'à l'époque les grand-mères elles ne faisaient que tricoter quand elles travaillaient. travaillais pas. Et là, l'après-midi, elle m'a mis le pied à l'étrier. Et en fait, j'ai adoré ça. Donc, j'avais 5 ans. Après, maman a pris la relève. Ce qui fait que quand j'avais, on va dire, 10, 12 ans, je tricotais tranquillement toute seule. Je faisais tous les vêtements de mes poupées. À l'école, on ne nous apprenait pas vraiment à tricoter. Mais bon, moi, je savais faire. Donc, je pouvais aider les autres quand on nous apprenait. J'ai continué en faisant des pulls pour toute la famille, hein, j'habillais tout le monde. Et donc, j'ai tricoté, je suis passée comme tout le monde par les tricots standards, layettes, vêtements en tout genre. Et puis, j'ai arrêté de tricoter pendant longtemps pour me consacrer à ma fille. Et puis, il y a quelques années, j'ai repris le pied à l'étrier, tout simplement parce que j'avais une maman qui était très âgée, qui était dans une maison de retraite. Et en fait, c'était une passion qu'on avait en commun. Et je trouvais que tricoter avec elle, elle était très âgée. Et ça lui permettait, on conservait ce lien. On passait des moments formidables toutes les deux à tricoter. Et je pense aussi que c'est peut-être aussi pour ça que j'aime autant tricoter. Parce que c'est elle qui m'a appris. C'était des moments privilégiés.
Et puis après, quand, je trouve que quand on découvre quelque chose qui nous intéresse, à l'époque actuelle, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'il y a énormément de choses sur Internet. Il y a des vidéos où on voit bien, il y a des tutos, en plus qui sont souvent gratuits. Et de plus en plus, je constate que surtout au niveau tricot, dans pratiquement tous les villages de la côte rouennaise, il y a des, on ne va pas appeler ça des clubs, mais il y a des après-midi tricot où on peut aller de façon tout à fait spontanée. On est très bien accueilli, on y va une fois, on va deux fois, et ça revient un petit peu de toute façon.
Oui,
je trouve que les travaux manuels reviennent. Et c'est vrai que le tricot, c'est presque le plus facile parce qu'on peut l'emmener partout, dans les transports en commun quand on a de grands trajets. Donc, c'est très, très bien.
Ce qui est assez amusant, moi, ce que j'aime bien dans le tricot, parce que moi, je suis passionnée de tricot, c'est qu'en fait, on croise des gens de toute génération. Et je me rappelle, par exemple, l'année dernière, quand j'ai découvert ce fameux festival Knitit, donc à Lyon, on s'est amusé avec des amis, donc le groupe avec qui je suis aujourd'hui. Et on a pris une photo parce que je me suis rendu compte qu'autour de nous, il y avait deux jeunes femmes qui devaient avoir une petite trentaine d'années, même pas, qui étaient en train de tricoter très sérieusement avec leurs petits sacs et leurs tricots. Et les trois mamies qui étaient autour, elles étaient toutes sur leur portable. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et donc, on avait fait cette photo, on s'était vraiment beaucoup amusés. Une tricot, ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo.
Merci à Monsieur Robert Bouillet, qui agit en véritable passeur de mémoire. Merci à l'équipe du musée Alice Taverne pour leur accueil. N'hésitez pas à aller découvrir l'exposition du fil aux perles.
L'exposition est ouverte tous les jours, sans exception, jusqu'au 3 novembre, donc de 10 à 12 et de 14 à 18 heures.
Voici que ma santé file avec mon fil.
C'était du fil aux perles, un reportage réalisé pour RVR Roanne par Anouk Isambert-Castric, Valentine de Chavannes et Philippe Fest.
Vous venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la Fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des Pâquerettes.